Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'émission Regards Croisés avec Arlette Farah et...
Fulgence Blair.
T'as vu, t'as dit ton nom juste au moment où ça sonnait, c'était hop, ça tombait bien. Alors bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Aujourd'hui, on a une invitée en première demi-heure.
Ah oui, en première partie d'émission, on va recevoir une dame, Anouk Lanouette Turgeon, qui va nous parler de parents jusqu'au bout.
D'accord.
Parents qui vivent avec des enfants handicapés.
Et même des fois lourdement handicapés, c'est ça ?
Lourdement handicapés aussi, okay. On peut le dire.
Et en deuxième partie d'émission, nous aurons avec nous Louise Véronique Sicotte qui va nous parler du très beau film sur Joséphine Bacon, Je m'appelle Humain. Et ensuite, moi je vous ferai une petite chronique sur les films de Cinémania, en tout cas ceux que j'ai déjà vus jusqu'à présent.
Décidément, on n'arrête pas de parler de ce documentaire. Je m'appelle Humain.
Mais ouais. Il est magnifique. Il faudra que tu le regardes.
Toi, tu l'as vu.
Moi, je l'ai vu aussi.
Je suis jaloux.
J'en parlerai avec Louise Véronique tout
mais
à l'heure.
Je pourrais intervenir quand même, même si je ne l'ai pas encore
bien
vu.
Sûr. Alors, on part en musique avec.
On part en musique avec Judith Fumae, Ringo Madlingozi, Kwasi Bane.
Allez.
Oh, C'est Fuma avec la complicité de Ringo Mandingos et Kwasi Bani. Voilà, c'est fini la musique. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On a déjà au téléphone notre invité, Arlette, oui. Anouk Lanouette Turgeon, qui est co-responsable de Parents jusqu'au bout.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame Turgeon.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Ça va bien.
Merci pour l'invitation.
Oui, ça, c'est la moindre des choses parce que c'est un cas. Vous vivez mes condoléances encore. Oui.
Merci.
On voit, vous êtes co-responsable de la fondation, de ce regroupement de dames, de femmes qui vivent avec des enfants handicapés et lourdement handicapés, on peut le dire.
Oui, j'ai vu dessus, oui.
Pardon. En fait, c'est un regroupement de parents.
De parents.
Donc, il y a des mamans. Ça a été fondé initialement par quatre mamans.
Oui.
Parce que, bon, on peut le dire quand même, c'est souvent la mère qui, si un des deux parents doit arrêter de travailler pour être auprès d'un enfant qui a des soins médicaux complexes, bon, dans la grande majorité, c'est la mère.
Oui.
Toutefois, il y a des pères aussi. On en avait dans nos. Justement, là, dans les membres qui nous suivaient de près avec Parents jusqu'au bout. Je parle au passé parce que notre principal combat a été mené il y a quelques années.
Oui.
On est encore actifs, mais ça s'est joué plus au début là, de la création du regroupement, c'est-à-dire en 2015-2016.
Oui.
On a obtenu la création du supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels.
Oui, oui, oui. En 2016, c'est ce que j'ai trouvé dans les recherches, dans la documentation. Arlette, ma collègue.
C'est-à-dire,
oui.
Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire parce que là, cette association, elle a été faite parce que justement, les parents, par rapport aux familles qui. Pour les familles, pardon, par rapport aux associations, aux personnes qui gardaient des enfants handicapés pour les autres, il y avait une différence financière. C'est ça?
Oui, en fait, ça a été ça notre principal argument. Puis quand on l'a constaté nous-mêmes en faisant nos recherches, on a été très étonnés de voir que pour, par exemple, les familles d'accueil, les familles qui vont
Pardon,
accepter...
famille d'accueil, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, excusez-moi.
Les familles, justement, qui vont... se porter volontaire, en tout cas pour prendre soin des d'enfants qui sont qui doivent être sortis de leur famille pour différentes raisons. Dans le cas d'enfants avec des besoins très complexes, avec des soins médicaux lourds, les familles d'accueil vont avoir jusqu'à un maximum de 40 à 50 000 $ par année. Et je ne veux pas diminuer le travail de ces familles-là, qui est phénoménal, mais effectivement, l'écart avec les familles naturelles nous semblait complètement inacceptable.
Oui.
Et c'est ce qu'on a mis de l'avant.
Ah ben oui. Et ça, ça a été réglé?
Oui, en fait, pas pour toutes les familles, parce que ce qui a été créé, donc le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels,
d'accord.
C'est vraiment pour les enfants très, très lourdement
handicapés.
Atteints qui ont des besoins vraiment lourds. Mais cela dit, donc ça a été ça le premier acquis, là, disons la première avancée. Puis après, on a fait une deuxième ronde de mobilisation, revendication pour demander qu'il y ait des paliers intermédiaires, des prestations intermédiaires qui soient créées aussi pour les enfants qui présentent des handicaps, des incapacités, mais moins lourds, mais qui quand même, comme je dis souvent, ça handicape toute la famille. En fait, c'est pas juste une question de lourdeur. Oui. Un enfant peut être moyennement, disons, handicapé sur papier, mais dans les faits, ça change la vie de toute la famille, ça change. Il y a des suivis médicaux quand même, des suivis en réadaptation, il y a toutes sortes de d'enjeux au quotidien qui font que, en termes de finances, ça change complètement le tableau familial. Donc c'est ça. Maintenant, il y a en fait deux paliers maintenant. Donc, pour les enfants, disons, très sévèrement handicapés, puis ceux qui le sont de façon plus modérée, mais bon. Pour les critères, là, honnêtement, on n'a pas été vraiment consultés. C'est les équipes médicales du ministère de la Santé là, qui ont déterminé tout ça, parce que moi, je m'y serais perdue. Là. Je me considérais pas en mesure de tracer la ligne, tu sais, qui est moyennement, lourdement handicapé.
C'est la question que je m'apprête à poser, d'ailleurs. Oui, voilà.
C'était ce que je me demandais. Donc,
qui met les degrés de handicap, quels sont les critères, tout ça. Et puis, mais comment est-ce que vous avez pu mobiliser les autres femmes là, avec vous, Geneviève Dion, Marilyn Picard, et puis votre responsable.
C'est le contraire qui est arrivé, en fait. C'est elle.
C'est elle?
Les cofondatrices.
Oui.
Oui, les cofondatrices de Parents jusqu'au bout, c'est Marilyn Picard et Geneviève Dion.
Oui.
Donc, au départ, c'était ces deux mamans-là. Puis après, il y a eu Marie-Ève Tétrault et moi-même qui nous sommes jointes pour que ça passe d'un duo à un quatuor.
À un quatuor, maintenant, oui.
Donc, ben moi, j'ai vu le jour 1 là, de la création du regroupement, j'ai vu ça apparaître sur Facebook parce que j'étais déjà en lien avec, justement, Marilyn et Geneviève.
Oui.
Donc, j'ai tout de suite applaudi, je les ai encouragés, j'ai pris l'initiative de moi-même contacter les journalistes que je connaissais pour faire connaître le mouvement. Puis bon, tu sais, je me suis impliquée vraiment, j'ai pris une part active à tout ça dès le début. Mm-hmm. Mais officiellement, je me suis fait recruter par Geneviève et Marilyn quelques mois après le début de la mobilisation. Puis ça s'est passé assez vite, en fait. Ça a été à partir du jour 1 de la création de Parents jusqu'au bout jusqu'à la création du supplément ou l'annonce officielle de la création du supplément pour soins exceptionnels, là, il s'est passé 16 mois.
Oui.
Donc, c'est quand même un exploit parce que, étant donné nos situations aussi de maman d'enfants à besoins complexes, on n'était jamais capable d'être les quatre ensemble au même moment.
Oui, c'est clair.
Il y en avait tout le temps une qui était à l'hôpital avec son enfant ou qui était
mobilisée à la maison
familiale. Oui. Puis, mais bon, on s'arrangeait justement, on se répartissait les tâches pour que bon, il y ait toujours quelqu'un qui soit capable de répondre à une demande d'entrevue ou d'aller à une rencontre avec un député. Ou bon, tu sais, on a quand même été sur beaucoup de fronts en même temps pendant ces mois-là. On n'aurait pas pu maintenir ce rythme pendant des années, je pense. Donc, c'est ça qu'on soulignait aussi, c'est l'urgence. Il n'était pas question d'attendre 10 ans pour qu'il se passe quelque chose. Il y avait déjà un retard. Il y avait déjà beaucoup de familles, justement, qui étaient dans une détresse aiguë depuis longtemps. Donc,
je peux m'imaginer.
Il était temps de crier. Là,
de crier fort sur tous les toits pour que tout le monde nous vous entende, d'ailleurs. Et vous le faites très bien. Vous le faites très bien. Bon, avant d'aller de l'avant, de toutes les façons, mais cette différence de somme perçue par les familles d'accueil et puis les familles, les vraies familles, comme si on peut le dire, mm-hmm. les parents, mais comment pourrait-il avoir une si grande différence comme ça? Pourquoi est-ce que c'était...
C'est la question qu'on posait, en fait, parce que j'ai pas la réponse. Oui. Pourquoi il y aurait une aussi grande disparité?
Si
je comprends que les familles qui s'occupent d'enfants qui ne sont pas les leurs, ben, effectivement, c'est pour ces familles-là, ça devient un travail, vraiment.
Un emploi.
C'est un travail aussi pour la maman
oui.
qui s'en occupe.
Donc, c'est ça. Puis il y a toutes sortes d'autres enjeux. Évidemment, vous le savez, là, mais les enfants qui sont qui doivent être sortis de leur famille par la DPJ pour des raisons de parents inaptes ou qui ont toutes sortes de problématiques qui les rendent incapables de s'occuper de leurs enfants, ça a des impacts effectivement très lourds aussi sur les enfants, donc des enfants qui ont des troubles d'attachement, qui ont des donc les familles d'accueil qui s'occupe de ces enfants-là, clairement, ont un travail titanesque à faire pour que les enfants puissent retrouver une certaine fonctionnalité, une certaine confiance en l'adulte, tout ça. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas seulement les cas d'enfants handicapés.
Oui.
Mais nous, évidemment, c'était notre situation, donc on mettait ça de l'avant, comme quoi, justement, c'est insensé que nous, nos familles, aient à placer leurs enfants, pas parce que les parents sont inaptes, mais parce que les parents sont juste pas capables financièrement d'arriver à fournir le minimum à l'enfant, parce que il y a tout un enjeu aussi de comment conserver un travail tes enfants sont hospitalisés, ont des suivis médicaux à chaque semaine. Tu sais, c'est complètement, on a des agendas vraiment de ministres, de quand il faut, on devient les secrétaires de nos enfants, les ergothérapeutes, les infirmières de nos enfants. Donc, c'est très demandant.
Oui.
Donc, c'est ça, c'est un travail vraiment exigeant, mais il y avait cette pensée, dans le fond, qu'on n'aurait pas, nous, à, on ne devrait pas être payé pour s'occuper de nos enfants, tu sais. Mais c'est pas un salaire, en fait, nous, qu'on demande, c'est juste un minimum de compensation, les revenus qu'on perd.
Oui.
Parce qu'au niveau du travail, c'est clair que on perd énormément de revenus, ça se compte en dizaines de milliers de dollars.
Oui.
Il y a énormément de coûts supplémentaires aussi, du fait d'avoir un enfant qui a des besoins. Besoin d'adaptation de domicile, adaptation de véhicule, thérapie spécialisée, médication parfois non couverte, formule spéciale pour que.
Est-ce qu'on peut les appeler des besoins exceptionnels ou alors ça, c'est des besoins qui n'ont rien à voir avec les besoins d'un enfant qui n'est pas du tout handicapé?
Non, c'est ça. Donc, à un moment donné, ça dépasse juste les frais. Bon, tu sais, on veut donner, justement, on veut bien tout donner à nos enfants, mais dans des situations comme ça, même la meilleure des volontés, là, on peut pas. On en a eu des témoignages de familles, justement, qui ont eu à placer leurs enfants avant la création du supplément pour soins exceptionnels, parce que, justement, ils étaient dans un cycle infernal de. Incapable de garder un emploi, puis incapable de fournir financièrement les soins de l'enfant.
Madame Turgeon, quels sont vos rapports avec les autres organismes qui s'occupent des enfants handicapés? Est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que vous en parlez? Ou que vous faites des réunions ensemble? Ou bien comment ça se passe?
En fait, on a eu une collaboration notamment avec l'Étoile de Tachaud pour la deuxième ronde de mobilisation pour la création du niveau intermédiaire de prestation du supplément pour enfants nécessitant des soins exceptionnels. Entre autres, justement, ça a été une collaboration pour demander que le supplément soit plus inclusif. Puis l'Étoile de Pachaud est un organisme différent, là, dans le sens où c'est davantage un réseau d'entraide pour les parents, mais qui offre des services vraiment essentiels. C'est vraiment un organisme de service aux familles, de jumelage avec des personnes qui font de l'aide à domicile. Il y a des réunions entre parents. Il y a toutes sortes d'activités pour, entre autres, favoriser une meilleure participation sociale des parents. Parce qu'il y a certains organismes d'aide pour les enfants, mais pour les parents, c'est plus rare. Donc, cet organisme-là a vraiment une mission très particulière. De notre côté, jusqu'au bout, bon, on est davantage plus dans la revendication. On n'est pas dans le, c'est pas un organisme de service. Donc,
de service, oui. Vous êtes beaucoup plus dans la revendication, oui.
Donc, on a trouvé que c'était complémentaire. Donc, oui, ben moi, franchement, je les connais beaucoup, les organismes là qui s'occupent des enfants. Il y a Solidarité de parents de personnes handicapées. Il y a la Corporation L'Espoir. Il y a la Société québécoise de déficience intellectuelle, c'est qui travaille en plus en déficience intellectuelle, justement. Moi, je suis en contact avec tous ces gens-là pour... et bien d'autres aussi, là, récemment, justement, avec Parents jusqu'au bout, on a décidé de soutenir un mouvement qui part de l'Ouest canadien.
Oui, le Plan Institute.
Oui, exactement.
Oui.
Donc, c'est un mouvement qui se veut pan-canadien. Donc, on a décidé de promouvoir cette initiative-là, de la faire connaître. Puis, donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment, par Facebook, par email, par toutes sortes de moyens, là, j'ai... tenter de faire connaître.
Oui, allez-y, parlez de leur webinaire qui arrive, là, qui a commencé depuis le 5 d'ailleurs, et puis il y a le 12, le 19, le 26. Rapidement, il nous reste quelques minutes.
Oui, ben en fait, c'est une initiative qui fait suite au discours du trône prononcé par Justin,
oui.
Trudeau, qui annonçait la création d'une nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap,
oui.
qui serait modelée sur le supplément de revenus garanti qui existe pour les aînés, oui. donc qui correspondrait à un revenu minimum de base pour les personnes handicapées. Alors, on veut s'assurer que cette prestation ne soit pas qu'une promesse en l'air, que ça se concrétise, et on veut que ça se concrétise en déterminant nous, entre personnes concernées par ces situations-là directement, déterminer qu'est-ce qu'on veut que ça soit, cette prestation-là. On veut pas juste subir qu'à un moment donné, il y a quelque chose de mis en place, mais on veut relever le défi de s'entendre entre nous sur qu'est-ce que ça doit être, cette chose-là, qui doit être inclus. Donc, en fait, c'est ça. L'idée, c'est de créer notre propre table de discussion entre nous pour déterminer notamment ce que cette prestation-là devrait être, mais quelles autres priorités aussi on peut avoir en termes de revendications pour ne pas, encore une fois, quémander une place à la table des décideurs, mais plutôt créer notre propre table et les inviter ensuite à connaître nos objectifs et nos exigences.
Voilà. Donc, les 5 webinaires qui ont commencé d'ailleurs depuis le 5 novembre, le jeudi 12 aussi, le 19 et le 26, c'est sur la page Facebook.
Passionnant, notamment le design inclusif, les nouvelles formes d'engagement démocratique, comment travailler ensemble et comment collaborer même avec l'ennemi.
Oui.
donc, c'est des outils en fait qu'on veut se donner qui dépassent l'idée de en fait, qui dépassent les préoccupations qui sont celles des personnes en situation de handicap, mais on voit un peu plus large au niveau du changement social, comment s'assurer d'implanter des changements durables, puis quels sont les meilleurs outils pour y arriver. Donc, tous les invités, tous les conférenciers invités sont des gens qui sont au sommet de leur art dans leur domaine. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer.
Voilà. Merci beaucoup.
Outils inclus.
Voilà. Merci beaucoup, Mme Turgeon.
Bon courage pour la suite.
Beaucoup de courage pour la suite. Et puis, pour vous joindre, vous avez un site web, parents jusqu'au bout en un seul mot.com.
Oui, ça se trouve très facilement.
Très facilement. Vous avez une page Facebook aussi, facebook.com/parents-jusqu'au-bout. Et puis, pour assister au webinaire de Plant Institute Plan, oui, c'est facebook.com/Plant Institute. Vous allez assister au webinaire du 12, du 19 et du 26 novembre. C'est bien ça, non? Voilà.
Oui, c'est chaque jeudi de novembre.
Voilà.
Et ça peut se voir en direct ou en différé.
En différé aussi. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à vous.
Merci.
Et puis, prenez soin de vous et au plaisir de vous réentendre.
Bien sûr. Au revoir, madame, et merci.
Merci beaucoup, madame Turgeon. Merci.
Au revoir. Ouais.
Baby, what I'm trying to do is make you mine. It doesn't really matter to me if it takes some time. Whenever you're ready, baby, just draw my line. If I can't make time. Yeah, yeah. Something I'm doing wrong. Yeah, I wanna know what's going on.
She ain't about the cheap life. She only does it if the price right. She's everybody type right. Make you spend $1 million night right. She hangs out with the best. Her body's like a test. Sometimes I see her dance. I wanna have sex. Go on, girl. Take your clothes off.
El Capolo, on and off.
Oui, alors écoute, après cette entrevue qui était intense, hein, d'ailleurs, bon courage et bravo à toutes les mamans qui vivent une telle situation,
enfants handicapés moins lourdement ou pas, savent, des enfants handicapés, c'est un enfant handicapé.
Et qui savent si bien les aimer et s'en occuper.
Oui.
Les aimer, on les aime toujours, mais s'en occuper bravo plus. Donc, dans la prochaine demi-heure, restez avec nous. On va rejoindre Louise Véronique Sicotte pour parler de « Je m'appelle Humain », le film qui a été de Kim Obamsawi, qui a été fait sur la poète Inou, Joséphine Bacon. Et c'est un plaisir d'aller à sa rencontre, d'aller à sa découverte, d'aller... C'est une femme. Moi, le film m'a séduit. On va en parler dans un instant. Donc, à tout de suite.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Alors avant d'en parler dans un instant avec Louise Véronique Sicotte, on va lancer la bande-annonce de « Je m'appelle Humain ».
Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes ancêtres, les jambes arquées de celles qui ont partagé, de celles qui accouchent en marchant. L'autre, c'est l'intérieur des terres. C'est là où il y a les médicaments, c'est là où il y avait la nourriture. C'est dans le Noutme qu'on trouvait notre identité, notre culture. Tu sais, quand les vieux te racontent, là, que tu as fini par comprendre tous ces mots qui appartiennent à Noutme, ben, tout ce qu'ils te racontent, tu le vois. C'est eux que j'écris, c'est eux mes poètes. Je porte ma grand-mère sur le dos, mes genoux ploient sous tant de sagesse. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Ni inu dahanagahan.
Dis-toi, est-ce que t'es une grande poète?
Faut pas parler de ça.
Louise Véronique Sicotte, bonjour.
Bonjour Arlette.
Ça va
bonjour.
Bien
bonjour.
Ça va très bien. Bonjour. Bonjour.
Fulgence. Et alors, on va parler de ce film exceptionnel que j'ai vraiment aimé moi aussi. Donc, je te laisse parler de Je m'appelle Humain.
Oui, quelle belle entrée en matière en écoutant la bande-annonce et en entendant le rire et la poésie de Joséphine Bacon.
Oui.
C'est un film qui lui est consacré. Qui est réalisé par Kim Obamsawi, qui est une cinéaste aussi d'origine abénakise. Et elle nous montre cette femme Inou et toute la poésie qu'elle incarne. Parce que j'aimerais dire, dès le départ, je pense que tout ce qu'elle voit, Joséphine Bacon, c'est de la poésie. Tout est poétique dans ce qu'elle voit. Et la poésie, pour elle, c'est de retrouver son âme. Et comme elle l'écrit, elle le dit elle-même, tu laisses parler ton âme et tu écris après.
Sans se rendre compte qu'elle en est une grande poétesse.
C'est ça. Même la poésie est arrivée par accident pour elle, l'écriture. Parce qu'auparavant, elle était aussi réalisatrice, enseignante, traductrice. Mais le film se consacre sur cet aspect de sa vie, la poésie. Et c'est un peu un retour sur sa vie que Kim Obunsawin fait d'elle. C'est que on voit donc tout son passé, on voit son attachement à sa culture innu, on voit son déracinement aussi parce qu'elle a été dans un pensionnat de 5 ans à 19 ans. Et ça, cet aspect-là est peu abordé. Elle raconte sa vie avec générosité, mais aussi pudeur. Et cet élément-là, très douloureux de sa vie, cette étape-là, elle le laisse à son amie Sylvia le raconter davantage.
Oui, c'est ce qu'elle dit dans le film. Elle dit « Je préfère ne pas en parler et le laisser raconter par les autres. »
C'est ça. Mais on ne sent pas de... On ne sent pas de rancune, on sent une résilience, tout simplement.
Tu as raison, c'est vrai.
Oui, absolument. Et ce que j'ai dans le film, ce qu'il y a de fort, c'est le contraste entre les images grandioses des paysages du Nord et Montréal, où elle habite depuis des années et des années. Alors, c'est vraiment un contraste entre la ville et les espaces sauvages. Et puis, bon, il y a aussi une sorte de pèlerinage dans sa propre ville aussi, Montréal. C'est qu'on retrouve les endroits où elle est arrivée plusieurs décennies auparavant.
Oui.
Elle nous fait un parcours des endroits où elle a vécu. Et puis aussi également une forme d'itinérance au départ.
C'est ce que j'allais dire, oui. Ça a été ma surprise du film, en tout cas, de me rendre compte de ça.
Absolument. Mais aussi, elle découvre la contre-culture, les années 68, le Café Paloma, les intellectuels. Et ce qui l'amène à travailler à l'ONF, aussi avec des réalisateurs. Mais c'est surtout la poésie, en fait, qu'on découvre, son écriture et sa rencontre avec une autre auteure qui est
Morali.
Oui, merci. Et c'est elle qui va lui ouvrir la voie de l'écriture parce qu'elle cherchait des auteurs innus et des auteurs québécois pour faire une sorte de collaboration ensemble pour un ouvrage. Et puis, elle est allée chercher Joséphine, qui, elle, écrivait des poésies sur des petits bouts de papier.
Oui, sur des nappes de restaurant.
Oui. Et c'est ainsi qu'elle a fait connaître sa poésie. Mais un autre aspect du film que j'aimerais mentionner, c'est sa rencontre avec cette jeune poétesse, Marie-André Gilles. C'est la transmission de la poésie d'une génération à une autre. Et Marie-André Gilles, qui est aussi une poète innue, et qui a aussi remporté des prix, le prix de la poésie des littéraires, des prix littéraires du Salon du Livre du Saguenay. Et elle accompagne Joséphine jusqu'aux îles Mingan.
Oui.
Et elles discutent ensemble, elles échangent et elles méditent et elles se recueillent sur la grande puissance de ce paysage. Et c'est il y a deux images fortes dans ce film que je trouve. C'est d'abord on voit Marie-André transportée.
Oui, quand elle la porte sur ses épaules.
Sur ses épaules.
Oui, c'est magique.
Oui, et comme le faisaient en fait les nomades, ils transportaient les aînés avec eux lors de leur déplacement. Et puis l'autre image qui est très forte, c'est vers la toute fin. Finalement, on voit un caribou qui est abattu. Et évidemment, il est là pour être mangé par les gens qui sont présents. Mais c'est aussi c'est que José honore
cette prière de remerciement. On peut appeler ça comme ça.
Absolument, oui. Et c'est là qu'on voit que tout le côté, peut-être l'esprit de l'animal est là. Et il y a un très gros plan sur les yeux vitreux du caribou. Et on sent comme toute la présence, et elle remercie l'animal, et ça c'est très fort, je trouve.
D'avoir été là parce qu'il sert à la vie pour les autres.
Oui, absolument.
Alors...
j'aurais aimé peut-être avoir d'autres aspects de sa vie, comme son côté sa carrière de réalisatrice est vraiment sous le radar, on le voit pas vraiment. J'aurais aimé ça parce que c'est quand même aussi un aspect de sa vie.
Oui, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce côté de Joséphine Bacon. Il y a des gens, plein de gens qui ne pensent qu'elle est juste poète et puis c'est tout, quoi.
Oui, mais elle est multi-talentueuse. Et il y a aussi la musique de Alain Auger que j'aimerais souligner, qui est discrète, mais qui est aussi très enveloppante, qui se marie bien à la
avec ses textes. Je trouve.
Avec ses textes, oui, parce qu'on l'entend, en voix hors chant, on la voit également réciter ses textes, et elle a une voix chaude, comment dire, enveloppante, réconfortante.
Ça, Fulgence, il le sait, il l'a reçu déjà,
il a eu le plaisir
de la recevoir.
Oui. Bon, Joséphine, pas seulement reçue en entrevue, mais elle a participé aussi à l'événement de poésie que j'organisais plusieurs fois d'ailleurs. Il y avait une spéciale Joséphine Bacon avec sa très grande amie Chloé Sainte-Marie. D'ailleurs, en parlant de son côté de réalisatrice et traductrice, elle était grande amie à Gilles Carle.
Mais ils le disent dans le film.
Oui, elle a connu Gilles Carle avant que Chloé ne vienne dans sa vie.
Qu'elle l'aidait, qu'elle avait été embauchée justement pour travailler avec lui sur certains de ses films.
Oui, c'est ça. Et bon, cette femme a 73 ans, mais elle est. C'est ce que je trouve de
toujours belle.
Merveilleux, toujours belle.
Avec sa canne, son image, quand tu parles d'elle comme ça, je la vois avec sa canne en train de...
Oui, et elle marche et elle est toujours émerveillée.
Ouais.
Elle a un regard pitoyant et ça, c'est... Mon Dieu, c'est comme si elle avait une jeunesse éternelle.
C'est ça.
Hein?
C'est ça.
Et une force tranquille, une voix calme. Elle est du signe du taureau, hein.
Comme moi.
Ben oui, mais comme moi aussi. C'est ça que je voulais le mentionner, Arlette.
Fallait qu'on le dise. Ah ben, on a le droit. On a le droit, fallait qu'on le dise. Donc,
ben oui.
Je dis rien là-dessus.
c'est vraiment... Si vous avez l'occasion, allez le voir.
D'abord
dans le cadre de Cinémania, parce qu'on va continuer à en parler dans un instant. Et puis,
Il est sur la plateforme du cinéma du musée, donc il sera disponible aussi pour tous les gens partout au Québec. Joséphine Bacon, moi, c'était un nom que je connaissais de nom, mais qui était-elle au juste? On la découvre et je pense que c'est une poésie qui nous fait du bien, un film qui est positif, qui est méditatif et qui...
C'est de l'espoir.
Ouais. Exactement.
C'est de l'espoir.
L'espoir de voir des femmes comme ça et cette nouvelle génération montante aussi de femmes poétesses et qui ont un regard à la fois philosophique et mon Dieu, qui est rassurant.
Avec tout ce qu'elle a traversé, garder ce regard encore si pur, ça m'impressionne aussi beaucoup.
Oui, avec des mots qui sont simples, mais aussi elle écrit en Innu, et elle veut, sa mission c'est de récupérer les mots Innu et de les incorporer à sa poésie.
Oui, parce que la tradition Innu, c'est une tradition orale.
Oui.
Voilà, c'est pareil comme la tradition. Je te parle de similitude avec la tradition africaine, quoi, dans certains pays, régions de l'Afrique.
C'est ça.
Tout ne s'écrivait pas, tout se transmettait oralement.
Par les histoires qu'on racontait, ben, c'est magnifique à voir en tout cas. Ça s'appelle Je m'appelle humain. Tu restes avec nous, Louise Véronique. On va écouter Florent Volant qui nous chante Nuño, si je le dis comme il faut. Et tout de suite après, on va continuer avec Cinémania.
D'accord. Il y a aussi, on parlera de Cinémania, bien sûr.
Oui, mais tu pourras revenir sur Je m'appelle humain, mais je voudrais écouter Florent Volant, parce que je trouve que ça va avec la suite.
Écoutons Florent.
Allez.
Mashwat mi chewa, nushwalk ni jewan e kumak e kumak nim to nushwalk ni jewan.
C'est beau. Louise Véronique, tu es toujours là avec nous ?
Bonjour, oui, oui.
Alors, tu voulais terminer quelque chose sur Je m'appelle humain ?
Oui, j'aimerais terminer sur une phrase qu'elle a dite dans le documentaire et qui pour moi est. Ben, qui la résume aussi. Elle dit : je sais qu'un jour, moi aussi, j'atteindrai l'horizon. J'espère qu'il ressemblera à ça. Et qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'elle montre la rivière.
Oui, c'est un film à la fois émouvant, à la fois ça donne aussi le sourire, ça donne plein de choses. Enfin, c'est un bon moment à passer en tout cas.
Et on en a bien besoin aussi là.
Oui.
Comme tu disais, c'est porteur d'espoir et de calme et de poésie. On en a besoin. Avec des mots simples qu'elle utilise.
Tout à fait.
Mais Joséphine Bacon, c'est une poésie. Mais elle-même, c'est une poésie.
Oui. C'est une poésie sur pattes, si je puis me permettre.
Voilà,
Joséphine
poésie,
Bacon, pardon.
Joséphine.
Mais
pardon.
Avec une
canne. Ouais, alors, maintenant, je voudrais continuer avec Cinémania, où j'ai déjà vu quelques films, un certain nombre de films jusqu'à maintenant. Et ce matin, j'ai donc regardé, pour vous en parler, La Daronne. T'en as entendu parler ? J'en avais entendu parler ? Toi, t'en as entendu parler ?
Je ne l'ai pas vu.
La Daronne, c'est un film policier, comédie, qui est réalisé par Jean-Paul Salomé et qui est inspiré du roman de l'écrivaine Anne-Laure Kerr. Elle a reçu en 2017 le prix du Polar européen et le Grand Prix de littérature policière. Alors, c'est avec, dans les rôles phares, on va dire, Isabelle Huppert et Hippolyte Girardot. Donc Isabelle Huppert qui, lorsqu'elle veut se lancer dans la comédie, réussit ça de manière fantastique. Donc elle représente Patience Portefeux, qui est une interprète judiciaire franco-arabe. Elle est spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stupes.
Okay.
Et puis lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants, comme elle n'est autre que le fils de la personne qui s'occupe de sa mère dans une maison de retraite et qui s'en occupe vraiment très très bien. Et donc elle décide de le couvrir et s'ensuit plein d'autres choses que je ne vous raconterai pas parce qu'il faut voir le film, on va le voir sur les écrans. Mais en tout cas...
Non, tu ne nous racontes pas tout le film, mais attention, on a envie de le voir nous aussi.
Mais oui, parce que Isabelle Huppert dans un rôle comme ça... Alors, ce que disait Jean-Paul Salomé dans sa présentation du film, c'est qu'elle a, tout ce qu'on entend, elle a appris l'arabe phonétiquement pour le parler. Vraiment, chaque fois qu'elle parle, c'est elle qui parle, elle n'est pas doublée, elle a décidé de l'apprendre mot par mot, parce que quand c'est phonétiquement, c'est vraiment
très... En fonction du son, bien sûr.
Oui, oui, en fonction du son et tout. Et elle a appris tout ça par cœur et elle parle plusieurs fois, puisqu'elle elle s'adresse à des bandits, on peut dire, à un moment donné. Donc, elle parle en arabe et c'est elle qui parle. Elle n'a fait aucun doublage là-dessus. Donc,
et Arlette, est-ce que ça semble naturel lorsqu'elle le parle?
Ah, mais tout à fait. Tout à fait, parce que tu croirais qu'elle sait parler la langue. Alors, on le sait par lui qu'elle a appris phonétiquement à répondre comme ça, mais c'est très amusant. Puis en même temps, tu te dis que quelque chose comme ça, c'est pas possible que ça se passe, puis il faut pas que ça se passe, mais c'est drôle. On en rit. C'est-à-dire que... Oui.
Isabelle Huppert, elle excelle autant dans le drame que dans la comédie. Elle est...
Oui, c'est une artiste qui a été, c'est une comédienne qui a beaucoup été, qui a beaucoup joué dans des rôles forts, puissants, dramatiques.
C'est une de mes comédiennes préférées d'ailleurs.
Elle a un visage qui se ferme beaucoup. Quand tu la vois, t'as pas vraiment envie de rire.
C'est vrai.
Et là, dans ce film, c'est pareil. C'est le rôle d'une femme qui a perdu son mari est décédé très jeune, il s'aimait passionnément, elle n'arrive pas à revivre autre chose avec quelqu'un d'autre.
Mais ces rôles qu'on lui attribue lui vont très bien, Arlette.
Oui.
Et puis je l'appelle la grande Isabelle Huppert. C'est vrai, c'est une grande comédienne.
Ah oui, mais là, t'as envie de l'appeler la daronne et puis elle est très... elle est très drôle. Parce qu'en fait, quand Jean-Paul Salomé lui a téléphoné, parce qu'il s'était rencontré plusieurs fois, et puis quand il a lu ce livre et qu'il a voulu faire un film dessus, il s'est dit « Oh, j'aimerais trop qu'Isabelle Huppert fasse ce rôle et qu'on joue enfin ensemble. » Il l'appelle et... curieusement, elle venait de lire ce livre-là aussi.
Ah, il n'y a pas de hasard.
Quelle coïncidence, hein. Donc, le timing ne pouvait pas être mieux que ça. Quoi.
Le timing était là, donc elle a dit, bah, allez, on y va, faites-moi une histoire. Et du coup, voilà, c'est là-dedans. Alors, bon, on le prend de loin, hein, parce que j'espère que ça ne se passe pas comme ça dans la vie tous les jours.
Non.
Mais c'est très drôle, allez voir, ça fait du bien, puis ça nous porte à sourire.
Oui, elle a un côté aristocratique aussi.
Oui, c'est vrai. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, je veux parler d'un autre film. Là, c'est pas du tout pareil, qui s'appelle Vers la bataille, donc qui est réalisé par.
Mais tu en as
par,
vu combien toi déjà?
Moi, j'en ai vu 9.
T'es pas en compétition quand même.
Non, je suis pas en compétition, mais j'aime ça le cinéma. Ernest Lemusio et avec Malik Zidi, Lerpra Gomez, j'arrive même pas à me relire comme il faut, Thomas Chabrol. Donc c'est vers 1860, c'est un photographe qui réussit à convaincre un général de l'armée française de l'envoyer au Mexique pour prendre des clichés de la guerre. Sauf que il se perd, et il est incapable de trouver les combats et de prendre le moindre cliché. Donc il rencontre Pinto, un paysan mexicain, qui va le conduire à découvrir, bah, non pas la gloire et l'argent, mais un moyen d'affronter les fantômes de son passé. Et puis aussi de se rendre compte que pendant les guerres, bah, on demande on voit pendant le film que le général, en fait, veut des photos comme des photos un peu truquées, un peu tronquées, comme on peut le faire journalistiquement pour certains, de façon à aiguiller l'opinion publique d'une façon ou d'une autre. Manipulation.
Comme beaucoup le font, tellement avec des Photoshop et
voilà,
autres.
Voilà, de la manipulation. Donc, oui. Donc là, c'est pas du tout une comédie, mais c'est un très beau film aussi avec des paysages.
Que tu recommandes, que tu conseilles.
Oui, mais tous ceux que j'ai vus, là, je vous donnerai la liste, mais j'ai vraiment apprécié tous les films qui sont présentés par Cinémania. C'est souvent qu'on se retrouve avec... Ben, t'en sais quelque chose, toi aussi, hein, Louise Véronique.
Ils ont une très belle programmation. Ouais.
Très belle programmation.
Très belle brochette de films.
C'est un festival qui est très couru, d'ailleurs, de plus en plus, Cinémania. Mais il y a aussi les rencontres du documentaire qui commence demain.
Oui, c'est ça aussi.
On en finit
t'as
pas
bien
là.
T'as bien fait de le dire. J'y étais pas encore allée, là.
T'as bien fait de faire un clin d'œil.
Je suis encore sur les longs métrages.
Et ce sera donc en ligne. C'est en ligne. On peut les retrouver partout au Québec. Et puis, il y a aussi à Cinémania, il y a un documentaire gratuit qu'on peut visionner sur le réalisateur Louis Bélanger.
Oui, j'ai vu ça. sur oui. Louis Bélanger. Puis il y a aussi alors vite fait, parce qu'on est dans les deux dernières minutes, il y a un film que je n'ai pas visionné parce que je sais qu'il va être au cinéma et que j'ai envie de le voir sur grand écran, c'est La Nuit des Rois. Et j'attends qu'on ait la possibilité de retourner au cinéma pour aller voir ce film-là sur grand écran. Je trouvais quand même qu'il méritait mieux que mon écran de télé.
Moi aussi. Mais ça va venir.
Voilà.
On espère que ça va venir.
Espère, parce que j'ai très hâte, entre autres, théâtre, cinéma, musique. Enfin, je ne suis pas la seule, mais ça fait partie des choses qui nous manquent vraiment beaucoup.
On va l'apprécier d'autant plus.
Voilà.
Par la suite.
C'est ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas inscrits, allez voir Cinémania, allez voir certains films, et puis, ou tous, faites comme vous voulez, mais en tout cas, allez-y. Merci beaucoup, Louise Véronique. Merci beaucoup.
Merci, Louise Véronique.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt, bon cinéma. Au revoir.
Merci. Voilà. Oui, c'est ça, j'ai hâte de retrouver les films dans une vraie salle de cinéma. Voilà. Dans une vraie salle, d'être installée, puis de pouvoir voir ça. Alors, justement, on va écouter la chanson Israël Prou qui va nous chanter « N'oublie jamais que les salles de cinéma peuvent rouvrir et vont rouvrir aussi. »
N'oublie jamais le jour où l'on s'est connu. Si tu l'oubliais, mon bonheur serait perdu. J'avais mon bras qui s'appuyait sur ton bras, et le ciel de mes semaines des bouquets de rêves. Un ciel si bleu, je n'en croyais pas mes yeux. J'avais peur que tant de choix s'achève. Et pour la première fois, j'ai su combien je t'aimais. N'oublie jamais. J'avais peur que tant de joie soudain s'achève. Et pour la première fois, j'ai su combien je t'aimais.
Alors, n'oublie jamais, donc je voulais rajouter, n'oublie jamais que les cinémas vont ouvrir, les théâtres aussi, qu'on va pouvoir entendre de la musique et qu'on va pouvoir de nouveau se serrer dans les bras. Très bientôt, je l'espère.
Ça te manque, hein?
Oui, ça me manque beaucoup, oui. Oui. Et je ne suis pas la seule.
Ça manque tout le monde, on est tous dans le même bateau.
C'est hein. Vrai.
Il ne faut pas l'oublier.
Alors, nous arrivons à la fin de cette émission.
D'aujourd'hui, du milieu de la semaine.
Des beaux invités du milieu de la semaine, donc... Mm-hmm.
On dit bonjour à nos invités. Merci à nos invités d'abord.
Merci à nos invités.
Anouk Lanouette Turgeon, co-responsable de Parents jusqu'au bout.
Voilà. Merci
pour
à
les enfants handicapés. Voilà. Peu importe le degré d'handicap, c'est un handicap, c'est un handicap.
Un handicap, c'est un handicap. Je suis d'accord avec toi.
Voilà.
Merci à Louise Véronique Sicotte de nous avoir fait rêver avec le cinéma. Donc, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est toujours un rendez-vous entre 5h et 6h, entre 17h et 18h.
Ceux qui viennent
tous les jours, du lundi au
vendredi.
Pour
ceux qui viennent de nous découvrir.
Oui, pour ceux qui nous découvrent, donc tous, tout le monde est là. Merci beaucoup à tous. Merci. Maurice Bolduc.
Merci à toi, Arlette.
Merci à toi, Fulgence. Et on se dit à demain.
Oui, je ne te dirai pas non. Hein. Merci, Maurice.
À demain. Au revoir à tous. Merci.